Intégral Tour. Céline Géraud.
19h05, c'est l'Intégral Tour, deuxième épisode. Avant de filer à Mâcon avec Christophe Cessieux et Cyril Guimard sur la route du Tour, session de rattrapage pour faire le plein d'infos. Et c'est Martial Fernandez qui s'y colle avec son journal des sports. Salut Martial.
Salut,
alors après une semaine presque trop tranquille, première polémique, un coureur interpellé sur le Tour.
Oui, le dopage qui s'invite, un jour de repos sur le Tour de France, Rémy Di Gregorio au centre de la polémique. Le coureur de l'équipe Cofidis est ce soir en garde à vue à Marseille. Di Gregorio interpellé ce matin à Bourg-en-Bresse par les gendarmes du pôle santé de Marseille. Il était surveillé de près depuis un an, avait été mis sur écoute il y a quelques temps, garde à vue donc pour Di Gregorio dans un cadre de trafic de produits dopants. Yvon Sanquer, le manager de l'équipe Europcar, y voit une démarche individuelle. Pour lui, le monde du cyclisme doit poursuivre la lutte contre le dopage.
Ça rappelle à la vigilance, malgré toutes les actions menées et pour lutter contre ces dérives, eh bien on s'aperçoit qu'il y a encore une possibilité de passer au travers. Aujourd'hui, on en est à un coureur qui est en garde à vue. Aujourd'hui, il est suspendu à titre conservatoire. Si les faits concrets sont avérés, il sera licencié de l'équipe. Mais je crois qu'il faut, les choses étant tellement graves, prendre les choses dans l'ordre. Si jamais j'avais été au courant ou si quelqu'un l'avait été, je pense que l'aventure de Rémy serait terminée avec l'équipe depuis le moment où on aurait été mis, dans l'instant où on aurait été mis au courant.
Yvon Sanquer au micro de Georges Quirino. Le Tour une nouvelle fois éclaboussé. Christian Prudhomme, le directeur du Tour, a du mal à l'accepter. Mais pour lui, la lutte contre le dopage doit absolument continuer.
Ceux qui trichent se font prendre tôt ou tard. Et chacun doit bien le comprendre. Plus ils se font prendre tôt, mieux ça nous va.
Même ça vous met en colère quand même.
Que les gens trichent, que les gens continuent à tricher. Ça veut dire qu'il y a un manque de respect du Tour de France, bien sûr. Maintenant, là, il y a un cas. S'il est avéré qu'il a triché, il faut le punir. Si vous souhaitez que je vous dise que la caisse de résonance du Tour de France intéresse tout le monde, je vous le confirme, naturellement.
Christian Prudhomme, le directeur du Tour, qui répondait aux questions de Pierre-Yves Leroux. En 2007, il y avait déjà eu une situation similaire avec l'Italien Christian Moreni et l'équipe Cofidis, alors dirigée par Eric Boyer, avait décidé de se retirer. Cette fois, elle continue pour ne pas léser ses autres coureurs. Demain, le Tour repart sans Di Gregorio, donc, mais avec l'équipe Cofidis. 194,5 km entre Mâcon et Bellegarde sur Valserine et le premier col hors catégorie cette année, le col du Grand Colombier, inédit sur le Tour. Une montée de 17 km avec une pente de 7,1% de moyenne.
Et pendant ce temps-là, Martial, le président de la République, François Hollande, ira aux Jeux Olympiques.
Une visite aux athlètes français prévue le 30 juillet prochain, jour de la compétition de Laura Flessel, le porte-drapeau français, et des finales pour les nageurs Yannick Agnel ou Laure Manoudou. Une info toute fraîche, ça y est, c'est fait. Boris Diaw prolonge de 2 années supplémentaires son contrat, le liant aux Spurs de San Antonio. Bonne nouvelle pour le capitaine de l'équipe de France. Tony Parker, lui, ne va pas brusquer les choses ce soir. Le meneur de l'équipe de France ne devrait jouer que quelques minutes à Madrid face à l'Espagne. Le joueur, le coéquipier donc de Boris Diaw, blessé à l'œil il y a près d'un mois maintenant, prend son temps pour retrouver la forme. Il sait qu'il revient de loin, mais n'a jamais cessé d'y croire.
Moi, franchement, je suis toujours resté confiant. Je sais pas, j'arrivais pas à m'imaginer louper ces JO. J'ai tellement travaillé dur pendant 11 ans pour amener l'équipe de France de basket aux JO que je me dis, mais après tout ce travail, c'est pas possible que je loupe les JO. Et je suis toujours resté confiant, toujours resté positif. Et après, il y a 3 jours, quand j'ai eu l'autorisation, j'étais soulagé et je me suis dit, bon, maintenant c'est parti, il faut que je me prépare pour être performant aux JO.
Tony Parker au micro de Nicolas Paolorsi.
J-17 avant les Jeux Olympiques et J-50 avant les Jeux Paralympiques. Et l'équipe de France, ça y est, a son porte-drapeau.
Ce sera Damien Seguin, le skipper privé de sa main gauche depuis la naissance, défilera en tête de la délégation française le 29 août à Londres. À 32 ans, Damien Seguin participera à ses 3e Jeux Paralympiques. Médaille d'or à Athènes, en argent à Pékin. Depuis, il a même participé avec les Valides à la Route du Rhum et à la Transat Jacques Vabre. À Londres, il sera là entre autres pour aider les petits nouveaux. Le nouveau porte-drapeau prend sa mission très à cœur.
Je compte jouer mon rôle de capitaine d'équipe de France et de porte-drapeau à 100%. Je vais rencontrer l'ensemble des sélectionnés lors du stage terminal début août à Lille et j'aurai un message particulier d'abord vers les premiers sélectionnés qui ne doivent absolument pas passer à côté de leur JO et puis aussi envers les potentiels médaillables parce qu'ils n'ont pas non plus droit à l'erreur. Je pense qu'on a une ambition de faire 16 médailles d'or qui est assez forte, mais on a une très belle équipe de France et on a une opportunité unique de faire un très bon résultat et en tout cas je serai là pour les motiver, pour les soutenir à 100%.
Damien Seguin, donc porte-drapeau de la délégation paralympique au micro de Camille Gelpi.
Une info handball, Luc Abalo au Paris Handball, c'est fait.
Le club de la capitale version Qatari continue son marché. L'ancien ailier de l'Atlético Madrid a signé son contrat cet après-midi pour une durée de 4 ans. Après Didier Dinard et Onrubia, c'est donc le troisième international français qui rejoint le Paris Handball. Luc Abalo qui revient dans la région parisienne avec des ambitions élevées.
Premier objectif, que ça prenne avec mes coéquipiers, ensuite rester à mon niveau et progresser même, et après d'essayer d'être champion de France, pourquoi pas. Après, je sais que l'équipe de Montpellier domine le championnat depuis un moment, et on va essayer de changer un peu la donne. Il y a un super effectif là, il y a des joueurs étrangers, mais que je connais un peu tous individuellement, qui ont un super état d'esprit, il y a des bons mecs, donc on verra comment ça va se passer, mais avant Montpellier, il y a Chambéry, il y a Saint-Raphaël, Nantes aussi qui s'est renforcé. Donc déjà, avant de parler de Montpellier, on va penser déjà à ces adversaires-là et on verra.
Luc Abalo, joint il y a quelques instants, juste après la signature par Corentin Meignier. La F1, pour terminer, Céline, la belle semaine qui se poursuit pour Mark Webber, l'Australien vainqueur dimanche à Silverstone du Grand Prix de Grande-Bretagne. Il prolonge son contrat chez Red Bull jusqu'en 2013. Finit donc les rumeurs qu'il annonçait du côté de chez Ferrari la saison prochaine.
Merci Martial.
À demain.
On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et bien sûr, vous restez avec nous. L'Intégral Tour, c'est maintenant. On va retrouver tout de suite un Mâcon, Christophe Cessieux et Cyril Guimard, avec des coureurs qui étaient au repos aujourd'hui, mais les démons du dopage ont ressurgi et badaboum. Vous avez été très occupés, messieurs, aujourd'hui.
C'est le moins qu'on puisse dire. Bonsoir Céline, effectivement. Le Tour de France a nouveau pris dans la tourmente du dopage avec ce coureur français, Rémy Di Gregorio, arrêté ce matin à son hôtel par les gendarmes de l'Oclaesp, plutôt en garde à vue et transféré à Marseille, où il a été confronté à deux autres personnes arrêtées. On en reparle évidemment dans quelques instants avec toute l'équipe de l'Intégral Tour, avec Cyril Guimard, avec Luc Leblanc, ainsi qu'avec Thierry Bourguignon. On va se poser la question de savoir si cette affaire est le signe d'une rechute du peloton français. Et puis on va également s'intéresser aux sportifs, puisque demain, première grande étape des Alpes, Wiggins doit-il s'inquiéter du passage au Grand Colombier? Voilà donc le programme jusqu'à 20h de l'Intégral Sport qui revient dans une toute petite minute. À tout de suite.
Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous, rebonsoir plus exactement. Nous sommes en direct de Mâcon ce soir où le Tour faisait relâche aujourd'hui. Première journée de repos, mais une journée de repos, vous l'avez compris, bien mouvementée pour certaines équipes et notamment la formation Cofidis qui a donc eu la surprise de voir débarquer ce matin les gendarmes de l'Oclaesp, gendarmes spécialisés dans la lutte antidopage, gendarmes qui sont donc venus arrêter des potrons minés. Un certain Rémy Di Gregorio, coureur français de 25 ans de la formation Cofidis, qui a donc été interpellé, qui a ensuite été mis en garde à vue et transféré à Marseille, où il est entendu en ce moment par les policiers et les gendarmes dans le cadre d'une affaire de trafic présumé de produits dopants en bande organisée. Une affaire qui a été révélée aujourd'hui. En fait, les gendarmes auraient pris Rémy Di Gregorio en flagrant délit, c'est-à-dire qu'il était sur écoute. Ils ont donc pu noter les conversations qu'il avait avec deux autres hommes qui ont également été mis en garde à vue et qui sont donc interrogés par les gendarmes. On va évidemment s'y intéresser longuement ce soir dans l'Intégral Tour à cette affaire qui a évidemment fait désordre. Dans le Tour de France, on pensait être débarrassé des affaires de dopage, notamment concernant les Français. Et boum, badaboum, voilà qu'on y est de nouveau jusqu'au cou. Cyril Guimard est là, il était avec nous depuis le début de l'après-midi. Rebonsoir, monsieur le druide.
Bonsoir, oui, journée très chargée. Alors,
enfin, les druides, en ce moment, il vaut mieux pas trop sortir le bout du nez. Hein.
Les druides donnent des potions magiques, mais elles sont totalement naturelles.
Totalement naturelles.
Et efficaces.
D'accord, j'espère pour vous, mon cher. Autrement, vous allez vous retrouver avec les menottes au poignet. Luc Leblanc, roi de la tisane. Oh non, c'est une blague. Luc Leblanc, ouais. Évidemment, ouais, est avec nous. Salut, Lucho.
Bonsoir.
Et il y en a un qui rigole là-bas.
Bonsoir. Ouais, non, j'irai pas plus loin.
Bon, il y en a un qui rigole de loin, c'est Thierry Bourguignon. Hein, et je sais pas qu'est-ce que je vais te trouver à toi.
Ah, vas-y.
Le druide et ses potions magiques, le roi de la tisane. Et puis, bon,
bah,
tu es bon.
Il y a un mec sérieux.
Un mec sérieux au bar. Ça, il était très sérieux au bar. Bon, alors, messieurs, on va évidemment revenir sur cette affaire. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, on l'a posée, et vous allez entendre les réponses dans quelques instants à Yvon Sanquer et également à Marc Madiot. Est-ce que cette affaire est le signe d'une rechute du peloton français ou alors c'est une affaire isolée d'un garçon isolé? On va évidemment se poser la question. On a posé cette même question à Yvon Sanquer tout à l'heure, manager de la formation Cofidis, qui a dû s'expliquer sur cette affaire cet après-midi à 16h. Vous avez entendu en direct et sur RMC la conférence de presse d'Yvon Sanquer. Alors, est-ce le signe d'une rechute? Est-ce que c'est un cas isolé? La réponse du manager de Cofidis.
J'aurais tendance à dire que les Français, comme les autres, sont des hommes. Le problème du dopage, c'est aussi un problème d'hommes. C'est pas forcément qu'un problème de sport. Il y a des gens qui trichent dans tous les milieux, des Français comme d'autres. Ça nous rappelle à la mesure, à l'humilité par rapport à ce problème. J'ai jamais voulu et j'ai toujours refusé de commenter, je dirais, ce qui se passait chez les autres, parce que il faut passer toute son énergie à s'occuper de ce qu'on fait nous dans notre équipe. On n'est jamais certain de pouvoir endiguer complètement ce phénomène.
Voilà, jamais certain de pouvoir endiguer complètement ce phénomène, nous disait Yvon Sanquer. Cyril, pendant des années, les Français, les directeurs sportifs français, les coureurs français ont expliqué que s'ils n'avaient pas de bons résultats, c'est parce que le dopage avait été éradiqué chez les coureurs français. Alors cette affaire fait un petit peu désordre. Est-ce à dire qu'il y a une rechute chez les coureurs français? Il n'y a pas que cette histoire, hein. Il y a eu une enquête préliminaire. On en a parlé beaucoup en début de tour, même si évidemment il s'agit uniquement d'une enquête préliminaire et que rien n'a été démontré ni avéré par la justice depuis un an. Mais enfin, en tout cas, ça tourne autour des équipes françaises et là, c'est tombé sur Di Gregorio. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire?
Alors, premièrement, pour répondre à la première question. Oui, il y a une période où en France la lutte antidopage était très serrée, elle l'est d'ailleurs toujours, elle l'est même davantage, et où il y avait un certain laxisme au niveau des étrangers et surtout des médecins bien rodés aux différentes techniques de dopage. Ça, c'est une réalité. Depuis quelques années, on va dire depuis 3-4 ans, avec la mise en place du suivi longitudinal et surtout du passeport biologique, les choses se sont resserrées. Et puis en France, on a aussi l'OCLAES qui, de façon, on va dire, transversale, eh bien, joue dans la pièce et souvent, la plupart du temps, parce qu'au niveau, des laboratoires et de Châtenay-Malabry, entre autres, d'un seul coup, on a quelques petits doutes sur certains profils biologiques. Et à partir de ce moment-là, on demande à l'OCLAES de surveiller peut-être d'un petit peu plus près. Donc aujourd'hui, on a Di Gregorio qui s'est fait prendre par la patrouille. C'est pas parce que vous avez un coureur qui se fait prendre par la patrouille que les problèmes de dopage sont en recrudescence. C'est totalement faux et les chiffres que l'on a sont évidents à ce niveau. Maintenant, comme le disait Yvon Sanquer, les individus, les hommes restent les hommes et que certains peuvent craquer plus facilement que d'autres à la tentation. Il semblerait que pour Di Gregorio, ce soit le cas, mais ça ne remet absolument pas en cause la lutte antidopage telle qu'elle est faite aujourd'hui sur le plan national et surtout telle qu'elle est faite sur le plan international. N'oublions pas que Di Gregorio, c'est un petit coureur. N'oublions pas que les gros tombent aussi.
Luc, est-ce que les équipes françaises sont plus propres que les autres, comme on avait tendance à le dire depuis quelques années? Quel est ton sentiment là-dessus, toi qui es quand même dans le milieu, qui a longtemps été coureur, qui a vu les pratiques de dopage dans les années 90. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, comme elle le prétendait il y a de cela quelques temps, les équipes françaises sont plus propres que les autres?
On ne peut pas dire aujourd'hui que les équipes françaises lavent plus blanc que les autres. Je veux dire, il y a des équipes italiennes, il y a des équipes espagnoles et d'autres nations, il y a des équipes qui sont propres. Voilà, c'est pas le fait que sur la France, il y a.
Non, mais c'est vrai que pendant des années, tu sais, c'était l'excuse donnée par les équipes françaises. Oui, on n'a pas de résultat, mais nous, on est propres. On n'est pas comme les Espagnols, on n'est pas comme les Italiens.
Depuis quelques années, c'est vrai que les instances internationales ont fait beaucoup, beaucoup de travail concernant la lutte antidopage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit sur le terrain, ça porte ses fruits. Après, concernant Rémi Di Gregorio, c'est vrai que c'est un cas isolé. Donc, on va pas faire l'amalgame entre Rémi et puis les équipes françaises, voire l'équipe Cofidis, qui a un projet quand même d'avenir avec Yvon Sanquer, qui est manager depuis 15 jours maintenant. Donc voilà, je veux dire, mais Il n'y a pas qu'en France où c'est propre, je veux dire. Hein. Encore une fois, dit Gregorio, c'est un cas à part. Voilà, ouais. Je veux dire, mais
on dit toujours ça.
C'est un cas isolé, c'est un cas à part. Christophe, c'est le seul. Tous les autres, on vous le promet, sont propres. Rémi dit Gregorio, c'est un grain de sable dans la machine qui est en train d'enrayer un petit peu la machine aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, quand tu regardes un petit peu le classement général du Tour de France aujourd'hui, tu vois des Galopins, tu vois des Pinot, tu vois des Coppel, tu vois des Roland, des jeunes de 22, 23, 24, voire 25 ans qui
sont Grégorio à 25 ans. Oui, il fait partie de la nouvelle génération.
Je te dis que c'est un grain de sable dans la machine, dit Grégorio. Voilà, mais il ne faut pas enlever, je dirais, le succès et je dirais l'avenir des jeunes coureurs français, des jeunes pousses qui sont en train de. Ce qu'elles sont en train de réaliser sur le Tour cette année, c'est formidable.
Parce qu'il y a dit Grégorio, on ne peut pas jeter l'opprobre sur tous les coureurs français.
Oui, d'accord. Voilà, exactement.
Non, mais déjà, j'aime pas les discours. Les Français sont plus blancs que blancs. C'est vrai que
longtemps été le cas, Thierry.
Christophe, c'est que les Français étaient en avance sur la lutte contre le dopage. Mais aujourd'hui, il s'est avéré que les Italiens se sont mis à la page, les Espagnols. Ils viennent et beaucoup de nations.
Ils sont pas encore arrivés. Hein.
Oui, ils commencent à y venir.
Ah, tu vas pas faire ton Yannick Noah à toi, hein, s'il te plaît. Hein.
Oui,
Par rapport à ce qu'a dit Yannick Noah, j'étais pas obligatoirement en contradiction.
Mais oui, non, mais d'accord, mais tout le monde le sait. Mais en plus, voilà, les faits sont
mais
là.
Mais
j'ai toujours dit, arrêtons de dire que nous sommes plus blancs que blancs, parce que ça, forcément, un jour, ça va nous tomber sur la tête. Et parce que, ben, le dopage, ça prévient pas. Même mon meilleur ami, je ne peux pas dire qu'il est plus blanc que blanc. Alors parce que le dopage n'est pas marqué, parce que c'est comme le sida, ça. On c'est pas marqué sur la tête.
C'est vrai que le dopage, c'est notre sida. Hein.
On ne trimballe pas un camion au cul comme ça. C'est simplement dans une boîte. Dans la valise ou caché,
pour répondre à Christophe, c'est que l'enquête qui est partie et qui a amené vraisemblablement l'arrestation de Guy Grégorio aujourd'hui, elle est partie à l'époque où il était non pas dans une équipe française mais dans une équipe étrangère, pas n'importe laquelle, Astana qui n'a quand même pas le monopole de la blancheur, et que cette enquête était partie sur Vinokourov, entre autres. Donc on sait que Vinokourov vit en partie en France et à Monaco, donc pas loin de Marseille. Moi, je veux bien qu'on parle des équipes françaises. Comme par hasard, c'est un coureur qui arrive de chez les Kazakhs. Or, on a pu voir certains commentaires ou même certains directeurs sportifs qui, depuis quelques années, ne veulent plus absolument prendre de coureurs kazakhs. Donc c'est pas non plus par hasard. Donc j'ai presque envie de dire il y a une erreur de casting chez Digre Grégorio, pourquoi il est allé chez Astana. On peut se poser la question, non pas dans son intention, mais est-ce que dans cette équipe, il n'aurait pas été, là je prends des pincettes, est-ce qu'il n'aurait pas été à un moment ou à un autre en présence de manipulations qui lui auraient ouvert l'esprit
on revient au discours, c'est ah là là, il s'est fait pincer, oui mais c'est à cause des Kazakhs, c'est pas à cause de nous.
Comme le disait si bien Marc Madio, dans sa carrière, il a eu plusieurs carrières, dit Grégorio. Il a une carrière amateur, cadet, junior, espoir, fantastique. Et puis, il a commencé à décliner par la suite en passant chez les professionnels et on s'attendait à voir un grand Di Gregorio. En fin de compte, on s'est attendu à rien du tout. On n'a rien vu passer.
On n'a rien vu passer.
Et là, c'est
toi
vrai
qui
que
dans la région, Thierry.
C'est vrai que peut-être c'est quelqu'un d'influençable, comme le disait Marc tout à l'heure. C'est quelqu'un d'hypersensible, très gentil, plein d'humour et tout ça. Et peut-être, trop gentil, qui s'est fait utiliser à un moment ou à un autre.
Ça, c'est le discours facile. Il a eu une enfance malheureuse, c'est jamais de sa faute, j'ai pas dit que c'était de sa faute. À l'école il était pas bien,
mais j'ai pas
c'est
dit que c'était
de
sa faute
la société, c'est pour ça
mais à partir
vient,
du moment où tu fais plus de résultats
à partir du moment où tu fais plus de résultats
Cyril, et que tu es faible intérieurement, et que voilà, il y a des gens qui viennent autour de toi et disent tiens, tu vas prendre peut-être ça va te faire du bien et tout ça, tu marches pas mais tu vas voir, tu vas remarcher. Ben le gamin, s'il est pas bien entouré autour de lui, et s'il se retrouve tout seul, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il plonge.
Est-ce que ses premiers résultats, il les a eu comment?
En cadet, en junior.
Mais oui, en cadet, en junior. Et ça existe aussi. Et arrêtez de fermer les yeux.
Mais enfin, il faut quand même être
On le voit tous les jours dans le tennis. Mais non, mais non, moi je suis de la région. Je suis de la région, je sais qu'il avait quand même une image heureuse. Voilà, c'est tout. Mais c'est tout ce que j'ai à dire.
Pour l'instant, il est coupable de rien.
Il est coupable de rien. Oui, les mecs qui sont descendus.
Oui, mais enfin bon.
L'enquête était là pour le pincer sur le fait.
Il y a une enquête, donc, Thierry. Il faut être mesuré dans nos propos.
Si les faits sont avérés.
Il n'y a pas de fumée sans feu, c'est sûr.
Les gendarmes, ils ne sont pas allés chez Moncoutier, ils sont allés chez Thibaut Pinot.
Ils sont descendus dans une chambre, pas plus.
Voilà, c'est tout. Ils n'ont pas perquisitionné.
La présomption d'innocence, ça existe dans notre pays quand même.
Évidemment, mais on n'est pas devant un tribunal. Là, on est dans un débat à la radio pour évoquer.
Mais je ne suis pas là pour protéger, défendre Di Gregorio. Je dis simplement, on insinue que Di Gregorio, depuis alors les minimes et cadets, il aurait pris éventuellement des produits dopants.
Tu aurais été intéressé pour défenseur de Don Vito Corleone, toi, tiens. Charlie nous appelle au 32-16, qui nous appelle de Gironde. Bonsoir, Charlie.
Bonsoir, messieurs.
Bonsoir.
Merci de nous faire vivre ce cyclisme avec autant de passion. Continuez.
Merci, c'est gentil.
Merci.
Dans tous vos propos avec cette affaire qui me trouble beaucoup parce que je suis un grand supporter de Cofidis. Mais la question revient sur un petit peu sur ce que vous venez de débattre. J'espère bien avoir compris. Vous dites, messieurs, que cette affaire traîne depuis à peu près un an, voire plus.
Oui,
un an.
Donc ça veut bien dire que Rémy était déjà bien soupçonné par les instances qui font un énorme boulot pour trouver tous ces types qui trichent.
C'est pas les instances sportives, hein. Attention, c'est pas les instances sportives.
Là, en l'occurrence, c'est la police.
Non, mais justement, c'est peut-être une question importante pour la suite, j'en sais rien. Mais expliquez-nous, nous qui vous écoutons, comment ces instances-là, qui ont un type dans le nez, dans le collimateur depuis des mois, et même s'ils n'ont pas pris en flag, comme le disait Cyril fort justement tout à l'heure, ne préviennent pas les instances directionnelles de Cofidis, Rémy n'aurait jamais fait le Tour de France. Il l'aurait certainement pincé différemment. C'est grave quand même de l'avoir laissé faire.
Le but des policiers, des gendarmes, c'est de choper les gens en flagrant délit.
Le problème de la police dans cette affaire, c'est qu'ils sont sur une affaire de trafic. Si on commence à informer tout le monde que Di Gregorio, il est sous enquête parce qu'il y a des...
Bon. Non, Cyril, non, monsieur Guibard, c'est pas informer tout le monde, c'est monsieur
Migraine,
simplement.
Non, Migraine, c'est
informer tout le monde.
C'est tout le monde.
Ah oui, d'accord.
Et non, bien sûr. Non, c'est pas possible. Vous pouvez pas mener une enquête et dire à un monsieur, vous voulez prendre ce. Attendez, c'est impossible.
Comment voulez-vous que monsieur Migraine écarte un coureur sans le justifier? Il ne peut pas l'écarter sans avancer des preuves. Mais là, il y a une enquête de police.
Bien sûr.
Et le secret de cette enquête,
le secret d'une enquête, c'est quand même bien sa discrétion.
Ouais, voilà. Ça a toujours été le cas, et dans n'importe quelle affaire, hein, pas seulement des affaires
d'opage. C'est plus grave que ça. Imaginez que la police, les enquêteurs, informent M. Migraine de ne pas engager M. Di Gregorio, et qu'à la sortie, on ne trouve rien sur Di Gregorio, et que Di Gregorio, il porte plainte, il se remplit les poches. Hein.
Ouais, au prud'homme,
on peut tout imaginer, mais seulement là, vraiment, il y avait quelque chose.
Voilà, en tous les cas, merci Charlie pour votre intervention. Tiens, on va prendre un autre auditeur, Fabien, qui nous appelle de Vendée, donc supporter de Vauclair et de l'équipe Europcar, j'imagine. Bonsoir Fabien. Fabien
est parti.
Il est parti. Il a été énervé par ce qu'on a dit. On l'a perdu.
Il va revenir.
Il va peut-être revenir. En tous les cas, donc Rémy Di Gregorio, on a évoqué quand même sa personnalité, jeune garçon dont on disait il y a quelques années, au début de sa carrière, qu'il était peut-être un futur Richard Vian, c'est-à-dire qu'il grimpait très bien. Ouais, ça te fait marrer, ça.
Il y a des choses, des similitudes comme ça.
Mais alors, on s'est posé la question de savoir aussi tout à l'heure, on a posé la question à Marc Madiot qui nous a envoyé sur les roses sur cette histoire en disant. Ils ont pas trop de pression, les jeunes coureurs français qui marchent. On en attend tellement un au sommet dans quelques années que.
Mais non, ils n'ont pas la pression. Regarde Marc Madiot avec Thibaut Pinot. Il lui met pas la pression.
Non.
Et il a fait un résultat.
Il va continuer
son pression.
Mais ce que disait Marc de façon très juste, il y a la pression que se met le coureur. Ou éventuellement
son entourage
plus que c'est fini, où on dit à coureur, si tu gagnes pas, je te vire. Non, ça marche pas comme ça.
Surtout
dans des équipes où aujourd'hui on essaye de protéger les jeunes et de les amener au plus haut niveau en prenant le temps.
Mais dans la vie, c'est comme ça. On a un besoin de résultats, que ce soit dans le monde sportif ou autre. Ouais. Et on a le couperet sur la tête. Et c'est vrai que
qu'est-ce que tu appelles le couperet ?
Mais le couperet, on se donne le couperet qu'on veut bien. C'est vrai que la fin de contrat est un couperet. Et c'est tout à fait normal, mais c'est pas normal de dire c'est toujours la faute à quelqu'un d'autre. Ouais. C'est la personne qui a été prise. Alors il y en a certains, c'est la faute au Toubi, c'est la faute à la pression des médias, c'est la faute à la pression du directeur sportif. Et merde, c'est bien le mec qui a pris les produits. Ouais. Donc s'il est assez stupide pour prendre les produits sans savoir ce qu'il prend, eh ben c'est franchement dommage. Ouais. Ou alors ça ressemble un peu au petit singe. J'ai rien vu, j'ai rien entendu et je me le mets dans le cul. excusez-moi du terme.
Cher Thierry. On a retrouvé Fabien qui nous appelle de Vendée. Bonsoir Fabien.
Oui, bonsoir la Dream Team, vous allez bien?
Ça va Fabien, ouais, pas mal.
On irait mieux s'il n'y a pas eu une descente de police, quoi.
Alors le Vendéen, qu'est-ce qu'il nous raconte alors?
Je voulais parler de Johan Bruyne en fait, parce que toutes les affaires de dopage, ils arrivent avec, comment on dit, l'US Postal. Il y a eu l'affaire Armstrong, il était donc à l'US Postal.
Il y est toujours là. L'affaire Armstrong est toujours d'actualité.
Ouais, le canard est toujours vivant.
Après, il a été chez Astana, il y a eu Vinokourov. Donc Degregorio, il a été chez Astana aussi. Donc c'était.
Johan Brunel, je crois, était plus chez Astana au moment de où l'enquête a été ouverte. Hein. C'est vrai qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais là, en l'occurrence, il n'est pas dans le coup, Johan.
Il n'est pas chez Cofidis.
Ça faisait beaucoup de choses quand même. On regarde les équipes, ça fait beaucoup de choses qui tournent autour de ça, quoi, en fait.
Ouais. Non, mais là, c'est il faut pas faire l'amalgame. Hein. C'est vrai que Johan Brunel effectivement était très impliqué avec Lance Armstrong, mais on peut pas tout lui mettre sur le dos. Et là, en l'occurrence, il n'était plus chez Astana au moment de l'affaire Degregorio.
Il a été quand même pendant plusieurs années. Hein. Vous savez, il y a aussi des formes de culture. Hein.
Bon, en tous les cas, voilà ce qu'on.
Bah, j'ai rien dit.
T'as rien dit, Fabien.
Tu vas prendre 15 avocats sur les fesses. Cyril, attention à tes cultures.
Oui, mais justement, là, j'ai mes tomates contre le mildiou.
Oui.
Bon, on remercie Fabien en tous les cas d'être intervenu au 32-16. J'ai également beaucoup de réactions sur rmcsport.fr. Ça réagit énormément ce soir sur cette affaire de dopage, dont on reparlera dans les jours qui viennent, évidemment, si on peut passer à autre chose et voir de grands résultats sportifs.
Est-ce que c'est une affaire de dopage ou une affaire de trafic surtout?
Oui, c'est ça.
C'est vraiment trafic. Hein, parce qu'il n'y a pas eu un coureur dopé pris en flagrant délit de dopage.
Ouais, d'ailleurs, on en prend beaucoup plus justement par l'intervention des gendarmes et des policiers que par l'intervention des médecins.
Parce qu'en c'est comme la drogue. Hein, y a des milieux, il y a des. Ouais.
C'est exactement une affaire de trafic présumé de produits dopants en bande organisée. Pour l'instant, il n'y a pas encore de mise en examen, mais une garde à vue qui pourrait se prolonger jusqu'à 48 heures, car on est dans une affaire de trafic de produits dopants et c'est comme la drogue, on a le droit jusqu'à 48 heures de garde à vue. Voilà donc ce qu'on pouvait vous dire ce soir sur cette affaire. Évidemment, demain matin dans la matinale d'RMC, on continuera de vous informer sur cette affaire. Dans quelques instants, on va s'intéresser aux sportifs. Hein, on va quitter le dopage pour s'intéresser aux grands colombiers. Et là, c'est aussi quelque chose de sévère. Mais là, tout le monde va devoir y passer puisque ce sera le grand col, le premier col hors catégorie de ce Tour de France que le peloton abordera demain avec l'entrée dans les Alpes. Et tout de suite, on va jouer d'abord.
Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour en direct de Mâcon ce soir, lieu de villégiature ou de repos plus exactement du peloton du Tour de France avant d'attaquer la montagne, les Alpes demain, avec notamment ce col du Grand Colombier dont on va parler maintenant, toujours en compagnie de Thierry Guimard, de Luc Leblanc et de Thierry Bourguignon qui sont avec nous. Alors la question qu'on va se poser, c'est de savoir si Wiggins doit s'inquiéter au nom du passage demain au Grand Colombier. Alors, on va peut-être expliquer ce qu'est ce grand colombier. Est-ce que vous l'avez gravi, messieurs?
Alors, je voudrais poser la question à Cyril, c'est pour ça, parce que moi j'ai une anecdote, c'était au Dauphiné libéré début des années 90, je crois que c'était en 90 ou en 91,
et il y avait
un ravitaillement quelques kilomètres, quoi, peut-être 5-6 kilomètres avant le pied du grand colombier. Et Cyril avait été remonté avec sa voiture en demandant à ses coureurs de faire une bordure, enfin de faire une bordure,
de brûler
le ravitaillement. Et on est arrivé à toute blinde, il y en avait partout au pied. Bon, on est quand même bien passé parce que tu nous avais pas piégé quand même. Nous, on savait bien ce qui allait se passer.
Hein? Oh, mais je sais que tu es très fort, tu es un druide numéro 2.
Donc voilà.
Non, mais en revanche,
c'était en 87,
c'était pas pendant le Tour de France, Cyril. C'était pas pendant le Tour de France, puisqu'à priori, c'était après ce que nous disent les archives, toujours très au point du Tour de France, la Grande Boucle n'est jamais passée par le col du Grand Colombier. Alors à quoi ça ressemble, Thierry? Tu la gravis toi aussi?
Oui,
à quoi ça ressemble? Il paraît que c'est terrible. Hein.
Il y a un site
internet suisse qui s'appelle salit.ch qui répertorie tous les cols européens en leur attribuant un indice de difficulté. Eh bien, a priori, le Grand Colombier est qualifié d'un indice de 135, c'est-à-dire supérieur à celui de l'Izoard qui sera à 124 dans son versant le plus dur que l'Alpe d'Huez qui sera à 125 ou encore l'Aubisque 119, il se situe dans les mêmes eaux que le Tourmalet qui est à 138.
Donc, mais c'est le même côté que l'on avait monté au Dauphiné?
Oui, oui, oui.
Parce que tu as la partie raide, là, très droite, là. C'est non, ça?
C'est là.
Ouais. D'accord. Ah oui, mais là, c'est
on
immonde.
On l'a monté du même côté.
C'est horrible.
On arrivait à peu près du même endroit. Hein,
là, il y a vraiment de quoi faire la guerre.
Ouais, ouais.
Ah, ben tiens.
17 km 400 avec des pentes qui dépassent les 10, les 14% même.
Ah, 14.
C'est costaud, ouais. Thierry. Hein, c'est
même
costaud,
voire
ce genre
plus,
de truc.
Je pense, hein, Cyril, d'ailleurs.
Ah oui, ça risque de faire très mal s'il y a la bagarre avant. Je pense que bon ben après une journée de repos, tout le monde va vouloir être dans le coup. Donc une petite heure de rapidité en sortant de Mâcon où tout le monde va vouloir prendre
un
le
peu
bon
plus
coup.
Quand même. Ouais.
Et puis ensuite, cette première bosse, un premier col, deuxième catégorie qui va déjà faire pas mal
mise
mal.
En jambes.
Et puis ensuite, le Grand Colombier. Et là, quand on est dedans, franchement, c'est pas la planche. La planche des belles filles, mais il est beaucoup plus long et moindre plat.
Mais il n'avait pas été mis à mal, là, au Dauphiné, Wiggins par Evans, dans la montée du Grand Colombier.
Dans la descente, Cadel Evans avait attaqué.
Je crois qu'il était juste dans la montée, Wiggins.
Mais la descente et l'arrivée de l'étape étaient situées beaucoup plus loin que.
Et là, on a mis un petit col derrière.
On a mis un petit col derrière.
On prend soin de Wiggins.
Non, mais après, il y a quand même une longue descente avant l'arrivée, quand même.
Et surtout, très longue descente avant l'arrivée. Et puis, un petit coup de cul juste pour terminer, pour arriver à Bellegarde. Donc, a priori, c'est quand même un endroit où on peut tenter de faire des trucs, là. Lucho, tu nous le disais hier, maintenant ils n'ont plus le choix.
Mais là, bon, Nibali, même Menchoff, le vieux, il est toujours là, il est toujours placé. Il faut pas l'oublier.
Tu l'as vu attaquer une fois, toi, Menchoff?
Ouais, non, mais attends. Non, mais bon, ceci dit, s'il y a quelque chose à faire pour Evans, il faut pas oublier qu'il est pratiquement à 4 minutes de retard quand tu regardes le chrono qui reste.
Pas d'affolement. Ouais,
pour l'instant, il a une 30, donc, à une 53.
Voilà. Bon. Il a une 53.
Il faut
quand même qu'il compte le chrono de la veille des champs.
Luc, c'est rare de faire des écarts de 4 minutes dans les grandes étapes.
C'est clair. Mais si tu commences pas maintenant, tu n'y arriveras jamais.
Il faut construire petit à petit,
rattraper le temps perdu petit à petit. Donc à mon avis, il faut qu'il commence de bonne heure. Et moi, je verrais bien une attaque sérieuse de Evans ou de Nibali au pied du Grand Colombier.
Ouais.
Ça paraît inévitable.
Ouais, c'est inévitable s'ils veulent effectivement arriver à quelque chose. Et puis Thierry, il faut le savoir. S'ils veulent mettre à mal Wiggins, il faut d'abord le faire douter. Il faut le faire craquer une première fois.
Oui.
Et ensuite, ça donnera des forces et des envies à tout le monde. Donc pourquoi pas demain dans le col du Grand Colombier justement.
C'est ce que j'allais dire. Psychologiquement déjà, s'ils veulent l'atteindre, dès demain. Bon, je pense qu'il y a de quoi faire. Maintenant, est-ce que le lendemain d'une journée de repos, on ne sait pas comment les coureurs répondront présents. Donc après le chrono, la journée de repos, ça peut être différent. Cette journée peut passer inaperçue pour le classement général. Oui,
d'accord.
Mais pour moi, s'ils veulent mettre le feu, il y a de quoi faire entre Nibali et Evans. Après, il se peut que les Sky arrivent au pied du Grand Colombier. Tous en file indienne.
Bah ça va se faire.
Et puis qu'ils fassent monter un super rythme comme ils ont fait monter la planche des belles filles et puis rien ne se passera.
Ouais. Mais là, s'il ne se passe rien demain, c'est cuit pour tout le monde. Enfin, c'est pas pour Wiggins, évidemment. Sauf pour Wiggins. Mais s'il ne commence pas à attaquer demain, effectivement.
Chaque jour qui passe, c'est un jour perdu.
De toute façon, dans les Alpes, il y a demain et après-demain. Les deux belles étapes, c'est celle-ci.
Alors, il paraît également que ce col, Cyril, est sujet aux ruptures de pente. C'est-à-dire que ça passe sur du plat, du replat. Puis d'un seul coup, il y a des pentes beaucoup plus violentes. Ça, c'est plus difficile pour les rouleurs tels que l'équipe Sky ou...
Ah non, ils savent tout faire.
Ils savent tout faire, oui.
On l'a vu sur la planche.
Est-ce que j'ai peur? Parce que là, vous dites tous, ouais, il faut que Nibali attaque, il faut que Cadel Evans attaque. Et bon, les autres, s'ils font monter vite, est-ce que c'est pas Cadel Evans ou Nibali qui vont couler une bière?
Oui, c'est ce que je te disais tout
parce
à l'heure.
Moi, j'ai quand même peur pour Cadel Evans. C'est que hier, il s'est pris une claque. Quand j'ai une claque, il s'est pris un aller-retour, quoi. Donc, il est quand même un petit peu sonné, pratiquement dans sa tête, il doit se dire bon, j'ai gagné un Tour de France, j'ai bien fait de le gagner, mais c'est voilà, cette année. Je suis pas sûr que sur le plan du mental, il soit tout neuf demain.
Ouais.
Je suis pas sûr qu'il soit tout neuf.
La carrosserie est abîmée. Et puis, si Wiggins se trouve en difficulté, que va faire Christopher Froome? Là aussi, grosse question.
Là, c'est la grosse question.
C'est celle-là l'interrogation.
C'est que moi, je regarde ça avec attention. J'ai vécu des situations avec deux leaders, voire trois, souvent délicates. Là, on n'est plus dans le domaine de la compétition, on est dans le domaine du rapport humain et dans la recherche du pouvoir.
Oui, mais de toute façon, Cyril, tu sais très bien que Froome, il n'attend qu'une défaillance de Wiggins.
Il n'y a qu'une
légère défaillance de Wiggins, et c'est lui qui prend les rênes. Et puis voilà.
Mais, qui te dit que Wiggins, il n'attend pas une défaillance de Froome pour être
utilisé. Déjà, il essaiera de le suivre.
On verra.
Oui, donc c'est pour ça, si jamais l'autre il avait un petit jour sans, peut-être que Wiggins il vit ça.
Enfin, quoi qu'il en soit, il faut pas qu'il fasse la sieste demain, quoi.
Personne ne va pouvoir faire la sieste demain. Le col du Grand Colombier, les coureurs devraient l'aborder aux alentours de 15h30, si ça tombe bien, puisque nous serons en plein direct et que nous vous ferons vivre ce grand moment, on l'espère en tous les cas, de ce Tour de France. Que va-t-il se passer? On en a l'eau à la bouche avant l'étape de demain. Tiens, à 19h49 et bientôt 19h50, il est grand temps de parier, messieurs.
Paris, RMC, Tour de France.
Il est là, Benji, comme tous les soirs. Salut, Benji.
Salut à tous.
Salut Benji.
Peut-on parier sur le futur prix futur. Dans les mailles du filet de l'antidopage? Non.
Il n'y a pas d'humour là-dessus, s'il te plaît.
Tu manques d'humour parfois, Thierry.
Non, c'est un peu déplacé, là.
Oui, c'est complètement déplacé. Je le reconnais. De temps en temps, je m'emporte, je dis n'importe quoi. Alors, Benji,
c'est bien de le reconnaître.
Ben oui, mais je reconnais.
C'est à moitié pardonné. C'est à moitié pardonné.
Benji, on rappelle le classement rapidement, comme ça, juste histoire de faire du bien à tout le monde.
Non, tu mérites pas. Tu mérites pas après cette réflexion, Christophe.
On passe déjà à l'étape de demain.
Exactement. Alors, on passe à l'étape de demain. Donc, cette dixième étape entre Mâcon et Bellegarde sur Valserine, 194 500 km. Quelles sont les cotes des différents favoris, mon cher Benji?
Eh bien, vous en avez parlé. C'est Vincenzo Nibali, le grand favori de cette étape. 8,50. Il est co-favori avec un autre coureur dont vous avez parlé, c'est Cadel Evans, les deux à 8,50, derrière Sylvain Chavanel à 16, Vino Kurov à 20 et Vandenbroek à 20, Froome est à 28, il faut remonter encore plus loin pour trouver Bradley Wiggins, puisque Bradley Wiggins est coté à 50. J'ai remarqué qu'il y avait tous les ans une victoire de la Rabobank sur le Tour de France, donc je vais jouer une petite victoire de Gezing qui est loin et qui est à 50, donc je vais le tenter.
Ouais, tu veux gagner de l'argent, toi. Hein.
Tu vas tenter Gezing.
Tu vas encore en perdre. Hein.
Exactement.
Alors, Gezing pour. Gezing qui est à la rue complète depuis quelques jours, Benji. Ouais. Tu écoutes l'intégral de ce tour?
Oui, j'écoute, Christophe, bien sûr.
Mais c'est bien pour ça qu'il joue.
D'accord. Alors, on va demander son avis. Allez, au druide. On va commencer par le druide.
Le druide, eh bien, il va jouer un jeune coureur hollandais. Steven Kruiswijk.
Ah ouais.
Eh oui.
D'accord. D'accord. Là, il faut qu'il alors, Benji, vas-y,
on vient sur Christophe. Ouais, il est à 60. Je ne redonnerai pas son nom, mais il est à 60.
Crossvite.
Crossvite, oui, oui. Non, mais. Troisième du Tour de Suisse l'an dernier.
D'accord, ok.
À défaut de gagner les paris, tu gagneras au Scrabble. Hein, si
au Crossvite.
Oh, si tu mets ça sur un mot compte triple, là, t'es tranquille. Hein.
Tranquille jusqu'à Paris.
Ah, t'es tranquille jusqu'à Paris. Lucho, quel est ton
favori? Moi je vais jouer Vandenbroek.
Vandenbroek, oui, c'est vrai que. Donc, ah oui, tu nous en parlais hier, c'est vrai que tu as fait forte impression l'autre jour.
Je vous rappelle qu'avant-hier, je l'avais joué, il fait 6. Hein.
Il fait 6. Donc, si Lucho joue, il va pas tomber.
Il aurait dû faire 2 si Cadel Evans va pas le chercher.
Enfin, bon, voilà. Bon. Vandenbroek.
Et maintenant, donc,
c'est un bon pari pour.
Ouais, c'est un bon pari.
Oui.
Est-ce que ça change de l'habitude? Est-ce que ça peut partir de loin?
Ça change de l'habitude.
Ça peut partir de loin et aller.
Oui, ça peut partir de loin, oui. Ouais. Ça partira de loin, d'ailleurs.
Ça partira de loin. Ça ira au bout, ça dépend de la bagarre.
Après, ça dépendra de.
De la
Sky.
Ouais. Bon, moi je vais jouer Nibali parce que c'est un, c'est dit-on le meilleur descendeur du peloton et que cette étape se terminera à l'issue d'une longue descente et que s'il veut faire quelque chose, Nibali. Et
on va voir le temps aussi, c'est ça qui est important.
Oui, le temps a priori. Ouais, on va voir avec Dédé, mais a priori ça devrait être pas mal. Donc Nibali pour moi et Thierry, tu vas nous donner qui?
Tu sais, je pensais à Nibali parce que moi je pense que, du moins j'espère qu'il y ait la bagarre demain et s'il y a la réelle bagarre, je vois bien. Nibali s'en allait dans la grande descente du Grand Colombier et enchaîner le dernier pour finir seul à Bellegarde.
D'accord, donc Nibali pour Thierry également, voilà qui est noté, on verra demain. On est souvent ensemble dans le groupe d'échappée tous les deux, hein, Thierry, hein.
Oui, mais bon. On se partage les maillots.
Ben oui, le druide n'a plus de maillot, sauf le.
Attention qu'il ne revienne pas, hein, parce qu'avec celui qu'il a joué, moi, imprononçable.
Voilà, donc pour les paris, on y revient demain après-midi avec Benji, puisqu'on aura encore une session de rattrapage, puisque Lucho se rangera probablement son pronostic demain.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Oui, Thierry.
Excusez-moi, j'allais dire, Christophe, vous êtes méchant.
Oui, je suis très méchant
avec notre jeune coureur.
Tiens, avant la minute de Dédé, une information. Trois collaborateurs de Lance Armstrong au sein de l'US Postal, le docteur Luis Garcia del Moral, le préparateur Michele Ferrari et l'entraîneur Pepe Marti ont été suspendus à vie, a annoncé mardi l'agence américaine antidopage. Del Moral, médecin de l'équipe US Postal, Ferrari, préparateur d'Armstrong et consultant de l'US Postal, et Marti ont été suspendus pour des infractions commises dans le cadre d'un système de dopage organisé au niveau de l'équipe. Eh ben dis donc, ça continue à tomber.
La machine avance,
c'est ça,
c'est pour ça Armstrong apparemment aurait porté plainte.
Contre
l'USADA.
Oui, mais sa plainte a été repoussée immédiatement. Allez, Dédé, évidemment. Aujourd'hui, il n'était pas sur la route. Il a fait la sieste, il a lavé ses chaussettes et il arrive, il est tout beau, il sent tout bon. C'est la première fois depuis le début du tour.
Je sens bon, c'est ça?
C'est super sympa. C'est la première fois qu'il sent bon.
Christophe, aujourd'hui t'es vraiment méchant.
Je suis d'humeur taquine.
Tu attaques plein
de monde. Bon, Dédé, alors demain va-t-il faire beau sur la route du tour, notamment au sommet du Grand Colombier?
Oui, demain soleil, quelques nuages, parfois, mais ça passera. Pas de pluie, 24 degrés. Sur l'étape.
Mais pas de canicule non plus, parce que la canicule, ça aurait pu être bien ça. Oui, les Anglais n'aiment pas la canicule normalement. Enfin, ça dépend.
En haut d'école hors catégorie, il fait rarement 40 degrés. Hein.
Oui, c'est sûr.
Mine de rien.
C'est
mais sûr. Non, là, ça sera bien.
Un long passage en pleine caillasse. Oui. Des dangers demain, le col du Grand Colombier, c'est quelque chose. Hein.
Oui, évidemment, il y a le col, la descente, enfin, les montées, c'est pas très grave parce qu'ils vont pas très vite. En revanche, c'est dans les descentes où il faudra faire, pas très vite, pas trop vite. Ça dépend. Dans la descente, en revanche, il faudra faire attention à quelques épingles dans la descente du Grand Colombier. Même chose dans la descente du col de Richemont, même si ça n'est qu'un troisième catégorie.
Ouais,
il y a quelques épingles et.
Le revêtement est bon, ça va.
C'est correct, il n'y a pas de problème là-dessus. Une douzaine de giratoires, 7 rétrécissements et une ribambelle de gendarmes couchés, coussins berlinois et d'Odane en série à escamoter. Et puis bon, pour terminer, quelques petites choses, des rétrécissements à Griège au kilomètre 2, à Cormoranche-sur-Saône au kilomètre 6, des avancées de trottoirs, des angles saillants et des maisons qui dépendent.
passe de partout à Priez.
Oh là, c'est dangereux.
Au kilomètre 67 et 69. Et c'est terminé.
Eh ben, c'est parfait. Merci, monsieur Dédé. Ben oui, t'entends la clochette. C'est la clochette de Peter Sagan. Mais non, c'est Céline qui nous appelle. C'est Céline qui veut prendre le relais.
Qu'est-ce que vous êtes pressé
oui,
là-bas à Paris?
Je klaxonne. Oui, on est pressé parce qu'il y a du soleil à Paris. On parle des Jeux Olympiques.
C'est bien la première fois, Céline.
Quel soleil et 15 degrés.
Merci, les garçons. À demain pour de nouvelles aventures. Bisous en London. Tout de suite, bien sûr, vous restez avec nous sur RMC. On sera notamment avec Damien Seguin, le porte-drapeau de la délégation française aux Jeux Paralympiques, et avec Camille Muffat. Tout ça et plus encore, c'est dans Before London. À tout de suite.